Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Si vous avez grandi comme moi entre les années 80 et 90, il se peut que vous ayez développé une peur des plus ancrées envers au moins deux choses très distinctes, le sida et les sectes. À la fin du siècle dernier, la question de la lutte contre les sectes était devenue un classique de la vie publique française, avec ses émissions de télé où des rescapés de cultes plus ou moins angoissants racontaient l'enfer dont ils s'étaient extraits.
Et Michel se sent coupable d'avoir entraîné ses filles chez les témoins de Jéhovah.
24 heures sur 24, il fallait être un bon petit soldat témoin de Jéhovah.
Mais nous étions dans une période obscurantisme.
Comme si chaque personne à qui on allait parler, on allait leur sauver la vie.
Et à tous ceux qu'on a emmerdés, ben on sort d'excuses, voilà.
Ben aujourd'hui, j'ai honte.
L'époque a clairement changé. Si personne ne contestera la nécessité de se protéger des dérives sectaires, les outils, eux, ne sont plus les mêmes. On a appris tout récemment, par exemple, que la MIVILUD, la fameuse mission interministérielle qui lutte justement contre les sectes, allait voir son statut changer, ses moyens diminuer et surtout ses équipes rattachées non plus au Premier ministre, mais au ministère de l'Intérieur. Il est prévu, selon nos confrères de France Inter, d'intégrer ses services à ceux du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui, vous l'aurez compris, s'intéresse surtout au mouvement djihadiste. Une décision qui signe une rupture dans la longue histoire de la lutte contre les groupes sectaires en France. Une histoire qu'on a eu envie de vous raconter avec cet épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. 'Notre guide dans ces décennies de combat contre les sectes, c'est le sociologue Étienne Ollion. Il est chargé de recherche au CNRS. Il a consacré sa thèse à ce sujet. Il en a tiré un livre, « Raison d'État », paru aux éditions de La Découverte il y a 2 ans. Dans ce dernier, il explique notamment comment, au fil du temps, la question sectaire a été décorrélée en France de la question religieuse pour s'élargir à tout un tas de champs qui vont des psychologies alternatives à l'éducation, la santé ou l'alimentation. J'ai donc commencé par lui demander si l'annonce du rattachement de la MIVILUD à une antenne ministérielle spécialisée dans la radicalisation signait un retour de la lutte contre les sectes dans le giron du religieux.
Alors c'est une question intéressante et c'est vraiment habile en fait de la poser ainsi parce que en effet ce qui s'est passé à travers les 4 ou 5 dernières décennies qui ont vu la lutte contre les sectes naître, grandir et puis progressivement disparaître, c'était l'histoire d'une extraction depuis la religion. Si on refait l'histoire, ce qu'on a vu, c'est le fait que la question des sectes naît dans le cœur de l'Église et le cœur des institutions religieuses établies, puisque c'est elles qui s'occupent de dénoncer en fait les hérésies à l'intérieur de leur giron, et ce depuis que les Églises sont présentes et depuis que les religions sont présentes. Mais dans les années 1970, quand se créent des associations de parents qui regrettent que leurs enfants rentrent dans une de ces communautés alternatives que sont Moon, Krishna, un petit peu plus tard la Scientologie, encore plus tard les témoins de Jéhovah, les parents vont mettre, et les proches vont mettre l'accent sur quelque chose d'assez différent, c'est-à-dire ils vont mettre l'accent sur la manipulation mentale que subiraient d'une certaine manière leurs enfants, les adeptes, pour expliquer ce départ. Et ce faisant, ils vont séculariser la définition de la secte. On va passer d'une définition tout à fait théologique. La secte, c'est une hérésie religieuse, c'est un groupe qui est en désaccord sur un point de doctrine ou de pratique, Ah, la secte, c'est un lieu dans lequel s'exerce une pression psychologique, retravaillée sous forme de lavage de cerveau, manipulation mentale, coercition psychique, etc. etc. Et donc va se produire une sécularisation en quelques années de la notion de secte, sécularisation qui avait des racines stratégiques de la part des parents, même s'ils ne s'en rendaient pas forcément toujours complètement compte, mais ils demandaient à l'État d'agir, l'État disait « ça n'est pas de notre domaine ». Et puis, à partir du moment où la lutte contre les sectes est sécularisée, les pouvoirs publics peuvent commencer à intervenir. Donc ça va être un des jalons importants dans l'histoire de la lutte contre les sectes de son envol, en fait, en France. C'est le succès de cette redéfinition. Et ça a des effets immédiats, ça a des effets à plus long terme qui font que, étant redéfini non plus comme une question de bonne versus la mauvaise religion, mais étant redéfini comme une question de manipulation mentale, progressivement et à mesure que d'autres personnes s'investissent dans la lutte contre les sectes, la notion de secte va pouvoir se retrouver, se réappliquer à tout un tas de groupes religieux. Par exemple, dans les années 2000, on voit une dénonciation assez forte des églises ou de dérives sectaires à l'intérieur des églises. Donc, dit pas le catholicisme est une secte, on dit il est possible qu'il y ait des dérives sectaires dans certaines communautés charismatiques, par exemple. Alors, la question que vous posez maintenant, c'est... est-ce que, du coup, en la réaffectant au ministère de l'Intérieur, qui est aussi le ministère en charge des cultes, et en la rattachant à la question de la radicalisation, qui est souvent la radicalisation djihadiste, est-ce qu'on est en train de revenir vers la question de la religion ? Est-ce qu'on réaccroche la question des sectes pour la religion ? Je pense qu'il faut, il faut être prudent ici. D'une part, c'est vrai, on pourrait se dire que de facto, la question des sectes va maintenant servir à lutter contre les bonnes et les mauvaises pratiques à l'intérieur d'une religion, en l'occurrence l'islam. Ça va être une manière de séparer le bon grain de l'ivraie. Et de ce point de vue-là, je pense en effet que ça va permettre, à mon avis, de produire des réorganisations à l'intérieur du champ religieux. Donc, elle va s'appliquer aux religions. Mais d'une certaine manière, elle va continuer de s'appliquer aux religions, parce que c'est pas parce que la définition de la secte avait été sécularisée qu'elle ne s'appliquait plus parfois à des groupes religieux. Hein. Ça a été le cas pendant un temps. On a cité l'Église catholique il y a un instant. D'un autre côté, ce qui est en train de se produire, c'est que la question des sectes se rattache à la question de l'islamisme, à nouveau, par la question de la manipulation mentale. C'est un déplacement qui avait été fait il y a quelques années. La lutte contre les sectes et la mission interministérielle, un peu en perte de vitesse, avait évoqué le fait que dans l'islam se passaient les mêmes phénomènes de coercition psychologique que dans la lutte contre les sectes ou que dans les sectes, qu'ils étaient donc très compétents pour prendre en charge cette activité. Et donc, d'une certaine manière, c'est la continuation d'un travail qui a été élaboré à partir de 2015, où dans le sein des associations et dans le sein de la mission, on a tenté de produire un corpus pour établir une homologie entre ce qui se passait. Preuve en est que dans les années 2015-2016 vont être tenues une série de séminaires dans lesquels on va tenter de montrer tous les parallèles, que des solutions comme par exemple les centres de déradicalisation vont être mis en place. Or, il faut savoir que les centres de déradicalisation s'appuient sur l'idée qu'on peut modifier le comportement psychique d'un individu à partir du moment où on lui parle suffisamment longtemps. Ce qui est une théorie qui a été évoquée dans l'histoire de la lutte contre les sectes, et non seulement évoquée, mais appliquée. Assez peu en France, mais aux États-Unis, vous aviez ce qu'on appelait de l'exit counseling, où en gros, des parents faisaient plus ou moins de manière forcée mettre leur enfant dans une maison. Venaient des exit counselors, souvent des gens avec une formation en psychologie, qui tentaient de leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils avaient tort, en fait. Donc, qui tentaient de les convertir à l'envers. Il y a cette idée, à travers la question de la manipulation mentale, du déclic, du moment où les gens changent, en fait, parce qu'il faut arriver à expliquer une conversion radicale, et brutale, souvent. Et l'idée, c'était de dire, je vais faire sortir mon enfant en lui parlant assez longtemps et en lui faisant comprendre les mécanismes psychologiques qui l'ont embrigadé. Et donc, de ce point de vue-là, et je reboucle ici avec votre question, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est la conséquence non anticipée et certainement non désirée des associations qui ont fait ce premier pas il y a quelques années. Et en effet, bah, c'est sûrement une question de... C'était en effet probablement un démantèlement ou en tout cas une mise, un été noir qui est mis sur la lutte contre les sectes aujourd'hui.
Ce qui est frappant quand on s'intéresse à la lutte contre les sectes et les dérives sectaires, c'est des parallèles qu'on peut tisser avec la lutte contre le crime organisé et contre la mafia. Notamment sur ce point de détail qui est que c'est rarement sur le cœur de l'activité qu'ils vont être frappés, ces groupes sectaires, plutôt sur leurs dérives potentiellement économiques. Ils vont être rattrapés par le côté économique des choses. C'est notamment le cas, je crois, de la scientologie en France.
Ça pose la question des instruments de l'action. Mmh. Un des instruments de l'action, c'est évidemment d'aller taper au porte-monnaie parce que il n'y a pas besoin d'être un matérialiste brutal pour savoir que voilà, sans ressources, on a plus de mal à agir. Et donc, un des moyens d'agir, ça a été de faire ça. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les années 1990, quand les pouvoirs publics veulent s'engager, parce qu'ils disent, bah, finalement, on essaye, mais on a bien des difficultés à accuser ces groupes de promouvoir des croyances alternatives. On est dans un pays où, en effet, rien ne permet de faire ça. Et donc, une des premières actions, ça a consisté à dire on va aller trouver des moyens dérivés. Et donc les moyens dérivés, c'est quoi? C'est en effet le porte-monnaie. Une autre modalité d'action, ça a été de faire donner l'administration, de faire travailler l'administration. Et donc par exemple, les témoins de Jéhovah ont eu un contrôle fiscal complet en 1995. Troisième mode d'action sur lequel en général on peut faire, c'est on peut agir. Où les pouvoirs publics, en tout cas, ont agi, c'est toute une série d'invitations aux administrations décentralisées, par exemple les mairies, à refuser des salles.
Vous l'avez dit, à partir des années 70, en gros, on trouve trace d'organisations citoyennes pour dénoncer des dérives sectaires ou des groupes sectaires. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce hiatus de 20 ans entre, en gros, ce début de prise de conscience collective de gens qui sont directement touchés et la prise en main de la question par les pouvoirs publics à partir des années 90, en gros? Qu'est-ce qui explique ce décalage? Est-ce que c'est une question culturelle, une question religieuse, là encore? Qu'est-ce qui l'explique?
L'hypothèse classique, c'était de dire, dans les années 90 et 2000, c'est-à-dire un peu avant que je commence ma thèse, hein, je la commence en 2008, hein, la question des sectes, finalement, c'est la manifestation de la laïcité à la française. La France n'aime pas ses religions minoritaires. Elle a fait un compromis avec le catholicisme, certaines formes du protestantisme, mais elle n'aime pas les religions minoritaires. Et évidemment, quand on regarde des groupes qui ont des prétentions religieuses, les témoins de Jéhovah, la scientologie, Krishna, Moon, on pourrait se dire, en effet, c'est une bataille religion contre religion. Et ce qui me posait problème à ce moment-là, et ce qui m'a amené à réfléchir en fait à cette question des sectes différemment, c'était l'idée finalement que toute une série de groupes que moi je voyais être incriminés, non seulement n'étaient pas reconnus par des religions, mais évidemment quand on accuse quelqu'un d'être une secte, on lui reconnaît pas la religiosité ou le caractère de religion, mais ne se revendiquaient même pas eux-mêmes d'être des religieux. Donc vous aviez des thérapeutes alternatifs, des écoles alternatives qui étaient accusés, des groupes paramilitaires, et qui finalement ne revendiquaient même pas cela. Et donc je trouvais à l'époque qu'il fallait un principe alternatif pour expliquer ça. Pourquoi est-ce que je fais cette parenthèse? C'est parce qu'en fait, l'explication simplement par la culture religieuse de la France ne suffit pas. Et qu'il faut aller regarder aussi comment concrètement se construisent des actions au sein de l'État, à l'extérieur de l'État, comment est-ce que des relais peuvent être pris. Et c'est là que le travail d'archives et d'entretien historique a commencé, avec des acteurs impliqués, qui montrent que jusque dans les années 1990, les sectes, c'est un sujet qui intéresse médiatiquement, on en parle, voilà. Les pouvoirs publics se sont un petit peu mobilisés, mais beaucoup moins qu'on ne pouvait le dire à l'époque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un rapport est produit, le rapport est produit et puis il ne se passe rien derrière. Donc on peut mentionner une série de rapports en disant la lutte contre les sectes par l'État remonte il y a très longtemps. En fait, il y a un rapport en 78 qui dit circuler, il n'y a rien à voir. Il y a un rapport en 83 qui est considéré comme important dans l'histoire qu'on faisait de la lutte contre les sectes et qui en fait va être mis au placard, enfin mis au tiroir. Et puis voilà. Et ce qui se produit en fait en 1995, c'est que d'un coup, les pouvoirs publics vont s'engager. Ça se produit parce que, et c'est l'argument que je défends dans la thèse, à la concomitance de deux événements. Le premier, c'est que le 20 décembre 1995 est remis un rapport au bureau de l'Assemblée nationale sur les sectes en France. Alors on pourrait se dire, bah ça y est, les pouvoirs publics s'intéressent à la question, c'est quand même très important. Quand on fait un entretien avec les personnes qui ont fait ce rapport, ils ont dit, ah non, mais nous on avait pris la question des sectes parce qu'on était dans la minorité, donc le groupe socialiste à l'époque était à peu près aussi gros qu'à l'heure actuelle, suite à la défaite de 93. Et donc, ces personnes disaient, on veut un petit sujet pour travailler tranquillement. Donc ils prennent un petit sujet, ils travaillent dessus. Ils remettent leur rapport et ils ont tellement peu l'impression que ça va être quelque chose d'important que le rapporteur part en vacances. C'est la fête de Noël, il part en vacances. Et le 21 au matin, on apprend qu'un groupe, l'Ordre du Temple Solaire, qui avait commis un massacre l'année précédente, qui s'était suicidé en fait, certains adeptes s'est suicidé au Canada, des adeptes français ont disparu.
16 personnes disparues depuis une semaine, 16 nouvelles victimes de l'Ordre du Temple Solaire.
Et on a un enchaînement où on a une révélation de l'information progressive. On apprend d'abord qu'ils ont disparu, les journaux commencent à titrer, les télés commencent à titrer sur le massacre de l'an dernier.
14 mois plus tôt, 53 personnes au total ont trouvé la mort.
Puis on a ensuite le lendemain la révélation de ce que on a retrouvé les voitures quelque part dans le massif du Vercors.
4 voitures immatriculées en
Suisse. Puis on a la découverte des corps, puis on a carbonisé, installé, disposé en étoile. Puis on a la révélation que certains adeptes ont été tués et que le massacre a été fait au lance-flammes. Et donc on va avoir quelque chose qui reste à l'agenda médiatique pendant 4 ou 5 jours, qui sont des jours d'attention médiatique importante, c'est les fêtes de Noël, tout le monde est devant la télé. Et va se produire à ce moment-là quelque chose d'intéressant du point de vue scientifique, hein, évidemment c'est quelque chose de tragique du point de vue humain, c'est que ce massacre va voir la rencontre de... une offre d'expertise très légitime, celle des députés, qui ont écrit un rapport, qui sont ravis de pouvoir en parler, hein, c'est aussi un moment d'exposition politique et médiatique pour eux, et de journalistes qui sont très en demande, puisque le sujet reste à l'agenda. Et quelque chose qui avait été refusé tous les mois précédents, à savoir la création d'une mission interministérielle, ça s'appelle pas comme ça à l'époque, elle s'appelle Observatoire interministériel sur les sectes, quelque chose qui était refusé 6 mois avant, dont on trouve la trace du refus 6 mois avant dans les archives du ministère de l'Intérieur, et accepté le 6 janvier par le gouvernement d'Alain Juppé. Et donc la concomitance de ces deux événements va produire un effet surrégénérateur qui oblige le gouvernement à se positionner et à lancer en fait la lutte contre les sectes. Et donc l'explication culturelle par la religion, à minima, ne suffit pas. J'irais même personnellement un petit peu plus loin. Je pense qu'elle n'est pas très efficace. Mais en tout cas, elle doit vraiment être complétée par une attention aux événements et aux concomitances, donc à l'histoire.
Est-ce que c'est justement la pression des événements qu'a connu la France ces dernières années, qui sont essentiellement, on va dire, des événements de confrontation violente avec la radicalisation religieuse, qui explique ce rattachement annoncé de la Miviludes au ministère de l'Intérieur et à un organisme qui lutte contre la radicalisation religieuse pour lui ?
Je ne sais pas, parce que ici le chercheur doit dire quand il arrête de chercher, et donc j'ai cessé cette enquête il y a 4-5 ans maintenant, donc je ne sais pas. Tout de même, il y a quelque chose qui mérite d'être cité ici, c'est que il me semble que ce qui est en train de se produire, c'est d'une certaine manière la mise en sommeil de la mission interministérielle contre les sectes. Or, ça n'est pas la première fois que les pouvoirs publics cherchent à faire ça. Dès le milieu des années 2000, la mission interministérielle, qui avait été beaucoup critiquée à l'étranger, demande à être, a subi les assauts en fait de différents segments de l'administration et parfois du gouvernement.
Vous mentionnez qu'elle a été très critiquée à l'étranger. On peut peut-être s'arrêter une seconde là-dessus. Elle a été très critiquée parce que il y a beaucoup de pays où certains groupes qui sont visés par la Miviludes sont très actifs, notamment les États-Unis, pour ne citer qu'eux, et où ils font un travail de lobbying très fort qui passe par des instances internationales, notamment par l'ONU.
Tout à fait. Alors, on est une des questions à laquelle je tentais de répondre dans mon travail, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'à un moment la France a été si critiquée à l'étranger. Et est-ce que c'était finalement la laïcité française contre la religiosité américaine qui s'exprimait ? Et en fait, ce que je montrais, c'est que les critiques qu'a reçues la France sont des critiques qui sont portées par quelques groupes, en l'occurrence deux ou trois. Hein. Ça va être un groupe protestant, ça va être la Scientologie, ça va être les Témoins de Jéhovah, qui tous ont des relais à Washington parce qu'ils sont installés à Washington et qui vont solliciter le département d'État des États-Unis pour pouvoir ensuite aller exporter leur cause auprès de l'ONU pour que l'ONU ensuite vienne écrire quelques lignes, hein, parce que c'est de ça qu'on parle. On parle de quelques lignes dans un rapport, mais les groupes en fait en France ensuite disent « Regardez, l'ONU dit dans un de ses rapports, la France maltraite ses religions. Et donc, c'est tout un processus en fait, d'exportation et d'importation, comme un boomerang en fait, que lancent les groupes implantés en France, qui passe par l'étranger, qui prend la vitesse et qu'ils essaient ensuite de ramener en France pour attaquer le gouvernement. Et ça, en effet, ça va participer d'une transformation importante au tournant des années 2000. Hein, en 1997 est créée la mission interministérielle de lutte contre les sectes, qui est donnée à un ancien ministre, dont la présidence est donnée à un ancien ministre, Alain Vivien, qui est doté de compétences extrêmement importantes. Et la MILS va être extrêmement active. La critique états-unienne contre la France et la critique auprès de quelques institutions internationales se fait au tout début des années 2000. Et en 2002, la mission interministérielle de lutte contre les sectes est transformée. On lui ôte tous ses pouvoirs diplomatiques, d'un côté, et de l'autre, on change son nom. Elle devient la mission de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires, avec pour idée que finalement, on va mettre la lutte un peu de côté et qu'on va mettre la vigilance en avant, qu'il faut faire attention. En 2007, Nicolas Sarkozy est élu et dans les mois qui suivent, des rumeurs circulent selon lesquelles il trouve que la politique française vis-à-vis des sectes est une sorte d'aberration. Et il est ici rejoint par toute une série de personnes de la haute fonction publique, parfois du Conseil d'État, qui trouvent que, du point de vue légal, c'est quelque chose qui porte atteinte aux libertés publiques et puis que, plus généralement, c'est quelque chose qui nous a mis en porte-à-faux avec les États-Unis. Et que donc, il faudrait peut-être mettre sous cloche, en fait, cette mission qui fait un petit peu de vague. Et alors là, va se produire quelque chose d'intéressant quand on essaie de comprendre les dynamiques entre le débat public, les journalistes et les politiques. C'est que une des conseillères du cabinet à l'Élysée de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon, va rencontrer un journaliste et dans le cadre d'un de ces off que font les journalistes avec les politiques, va exprimer l'idée qu'il faudrait avancer un peu sur cette question de la lutte contre les sectes. Et visiblement, elle dirait quelque chose comme la lutte contre les sectes, c'est un non-problème. Ou les sectes en France, c'est un non-problème. Le journaliste, entendant cela, décide, et c'est un fait suffisamment rare pour être mentionné, de briser complètement le off, le briser à tel point que VSD, qui était le magazine pour lequel il travaillait, titre « Les sectes de point à un non-problème », puis ensuite il attribue la phrase.
Les sectes sont un non-problème en France.
Je pense que ce sont des propos totalement irresponsables.
Ce matin, la grogne a gagné les rangs de l'UMP. Quant à la scientologie, elle affirme que la France va dans le bon sens.
Et donc, pendant quelques jours, va se jouer une bataille de communication entre, en sous-main, la mission interministérielle, qui normalement dépend du gouvernement, mais qui organise la contre-offensive, les associations, les députés, les sénateurs, et qui oblige Nicolas Sarkozy à reculer et à dire « Non, non, la question des sectes est une question qui est importante pour moi, que je prends la question des droits humains et des libertés psychologiques est une question importante. » Et donc Nicolas Sarkozy recule.
Ça n'est pas encore le cas d'Emmanuel Macron et son gouvernement qui, plus habilement sans doute, n'ont pas misé sur une suppression de la Miviludes, mais sur une évolution permettant, comme l'expliquait notre invité, une mort plus discrète et sans doute moins polémique. Merci à Étienne Ollion pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Thomas Play. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.